Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à un livre, Le Grand Soir, voyage dans l'imaginaire révolutionnaire et libertaire de la Belle Époque. Et pour parler du coup de ce thème, hein, du Grand Soir, de l'idée finalement que le renversement du capitalisme aurait lieu dans un moment très précis, très bref, un grand chambardement, pour reprendre l'expression de l'époque, qui serait donc voilà justement le grand soir. Donc pour parler de cette thématique, et d'une part, donc ça ce sera la première partie de notre émission, et pour parler d'autre part de l'espoir que ce grand soir se réalise un jour précis, c'est-à-dire le 1er mai 1906. Nous sommes avec du coup l'autrice de ce livre, paru aux éditions Libertalia en 2017, Aurélie Carrier. Donc bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et donc pour préciser, donc c'est un travail de réécriture d'un travail universitaire que tu as fait en master 1 et en master 2. Et qui t'a donné l'occasion d'aller dans les archives historiques et de découvrir quand même pas mal de choses nouvelles par rapport à l'histoire de cet imaginaire du grand soir et aussi du 1er mai 1906. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre particulièrement intéressant, parce qu'il amenait quand même pas mal de choses en plus par rapport à l'histoire, disons, classique de l'anarchisme fin 19e, début 20e, de l'histoire du syndicalisme révolutionnaire. On rappelle qu'on a également fait deux émissions sur des sujets connexes. Une émission avec Guillaume d'Avranches sur l'histoire de l'anarchisme et du syndicalisme révolutionnaire de 1881 à 1914. Du coup, on ne reviendra pas trop dessus dans cette émission. Et aussi une émission qui va passer à peu près en même temps que celle-ci, avec Einsteiner, autour des luttes sociales à la Belle Époque. Mais là, dans cette émission, on parlera quand même de manière plus approfondie que dans l'émission avec Einsteiner sur le 1er mai 1906. Alors, du coup, pour revenir justement à cette expression du grand soir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que cet imaginaire, un petit peu, que la transformation sociale se ferait dans un grand soir, un instant très bref, complètement à rebours de l'imaginaire actuel qui, finalement, est devenu beaucoup plus tranquille, où on insiste beaucoup sur les réformes, sur un temps extrêmement long, et alors que là, finalement, c'est un imaginaire qui va même plus loin que l'imaginaire de la transition, l'imaginaire bien connu du marxisme-léninisme. Comment est-ce que cet imaginaire d'un bouleversement social dans un temps très bref est né au 19e siècle ?
Alors, l'imaginaire du grand soir, qui est le soir, comme tu l'as dit, de la destruction de la société bourgeoise et capitaliste, il correspond à peu près au moment libertaire du mouvement ouvrier français, donc à la fin du 19e, dans les années 1890. Cette croyance en une révolution spontanée, une révolution sociale qui régénérerait en fait le corps social. Elle est assez présente, elle est partagée, et tout particulièrement par les anarchistes. Et c'est vrai que c'est eux qui principalement vont l'alimenter. Alors, enfin, très rapidement, pour un peu l'expliquer et poser le contexte, on peut dire d'une part qu'au regard de l'héritage depuis 1789, de l'héritage du 19e siècle et des temps forts de l'histoire sociale, il y a donc cette croyance en une révolution prochaine. Elle peut s'expliquer d'une part par le fait qu'avec l'industrialisation et donc la naissance du prolétariat et la misère en fait de la condition ouvrière, il y a cet espoir en fait d'un temps nouveau où on sortirait de cette condition de misère induite par le capitalisme. Et aussi cette idée qui monte quand même de plus en plus de lutte des classes en fait, finalement. Une idée qui prend forme, j'ai envie de dire, avec 48, la Commune, etc., que voilà, ça va être un affrontement entre les classes, que la paix sociale en fait n'est pas possible. Donc on peut y voir là l'aspect à la fois peut-être violent et radical que renferment les images de l'imaginaire du Grand Soir. Et par ailleurs, il y a aussi, donc en cette fin du 19e, même si après, a posteriori, on parlera de la Belle Époque, pour la toute fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais qui est une construction du 20e siècle. En fait, les contemporains de la fin du 19e siècle ne le vivaient pas forcément comme une Belle Époque. En tout cas, elle n'était pas belle pour tout le monde. Donc il y a, à partir des années 1880, la crise économique, enfin une crise économique notamment en France, et une espèce aussi d'esprit décadent qui s'empare de la bourgeoisie, et les anarchistes en fait profitent un peu de cet état d'esprit pour peindre une société totalement décrépite, enfin au bord de l'effondrement et mourante, et avec l'idée que voilà le face à une société qui en fait périra de son vice, le Grand Soir va en être le remède.
Oui, et justement, c'est une expression dont tu parles dans ton livre. C'est l'idée, c'est une espèce d'esprit de fin de siècle qui, effectivement, est très, très discuté dans la droite et l'extrême droite, et qui, en même temps, se retrouve aussi d'une manière complètement différente chez les libertaires ou des penseurs proches du syndicalisme révolutionnaire, comme Sorel, par exemple, et qui contraste peut-être assez fortement avec un imaginaire peut-être du milieu du 19e siècle qui était peut-être un imaginaire un peu plus, par exemple si on prend la vision de l'histoire un petit peu de Proudhon, une vision où on avance vers un progrès et où finalement, et aussi une vision progressiste entre guillemets de l'histoire qui laissait plus place à une forme de réformisme, de l'idée qu'on peut conquérir petit à petit, alors que justement cette ambiance fin de siècle et aussi le fait qu'il y a aussi une prise de conscience, et c'est le syndicalisme révolutionnaire né de ça, que la République ne n'apportera rien aux travailleurs et aux travailleuses, qui finalement pousse à un imaginaire qui est un imaginaire révolutionnaire, insurrectionnaliste, qui laisse peu de place, disons, au réformisme ou, disons, au compromis politicien, et qui, plutôt que d'espérer, disons, un progrès perpétuel, donc qui est la mythologie qui, par exemple, est présente au milieu du 19e siècle quand même dans une certaine mesure, et puis après qu'on va retrouver plus tard, par exemple pendant les Trente Glorieuses en France, ou aujourd'hui, même si c'est des réformes qui vont plutôt dans un autre sens. Enfin, il y a vraiment quelque chose de spécifique à cette atmosphère fin de siècle et à ce thème du Grand Soir.
Bah, c'est vrai qu'on peut, quand on compare avec peut-être plutôt comme tu disais, le milieu du 19e, on peut aussi prendre en compte le fait que, sans trop schématiser, mais que la conscience de la classe ouvrière, c'est quand même un peu, enfin, a pris forme, se cristallise à la fin du 19e siècle, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Il y a aussi parce que le mouvement ouvrier lui-même se structure. Et comme il n'y a plus effectivement à attendre, enfin, ou moins, parce qu'il y a quand même encore dans certaines corporations ou quoi, qui, dans certains milieux, on vote aussi, enfin, on vote ou on croit aussi en le progrès enfin, par exemple, avec après la naissance du Parti socialiste à partir de 1905, qui d'ailleurs viendra plus ou moins concurrencer en fait le syndicalisme révolutionnaire, mais c'est vrai que là on n'est plus chez les anarchistes. Il y a cette idée, enfin cette théorisation de vraiment de l'action directe qui est assez propre aux anarchistes et qui d'ailleurs qu'ils vont insuffler dans la naissance du syndicalisme révolutionnaire à partir de 1895. Enfin, pour reprendre sur le côté un peu fulgurant et immédiat en fait aussi du Grand Soir et cette idée en fait que la transformation aura lieu en un seul soir, ça tient aussi avec cette idée que la violence et le chaos destructeur par lesquels le vieux monde périra permettront d'accélérer le temps en fait. Donc c'est vrai que souvent les représentations sont dans un temps très court, en tout cas dans les poèmes ou les nouvelles que je cite dans le livre. Ce côté où tout le changement, tout le bouleversement se passe en une nuit, ça permet, il y a une vraie fonction sociale et encore une fois effectivement subversive de l'idée que ça permet de se représenter en fait le grand soir lui-même, la révolution sociale de laquelle naîtra un matin, enfin une nouvelle société dont les contours sont souvent esquissés en fait à grands traits. Ce qui compte, c'est la destruction, la révolution, et après on construira le futur.
Et c'est marrant parce que on a un petit peu, ça fait écho à, je pense, disons des conceptions du changement social plus généralement, parce que je parlais de Proudhon et on pourrait aussi parler de, enfin, j'ai l'impression que le courant anarchiste, comme d'ailleurs le courant marxiste, est traversé par des conceptions de la révolution, disons, qui a un pôle. C'est une conception un petit peu assez progressiste où on passe, l'humanité est passée par des stades. Proudhon lui-même pensait que la naissance du christianisme, par exemple, c'était une forme de progrès, et puis que petit à petit. Enfin voilà, il y avait une vision un peu progressiste. On retrouve aussi ça dans la social-démocratie, où ça en passe par des étapes, etc., etc. On retrouve ça aussi dans la théorie marxiste avec l'idée qu'on retrouve dans le manifeste du Parti communiste, où à un moment il y a une prise de pouvoir politique et après il y a une transition qui va vers le communisme et qui passe par le socialisme, bon, le capitalisme d'État pour faire bref. Et d'un autre côté, même chez Marx ou même dans des courants marxistes anti-autoritaires, à certaines périodes, on a une vision, et qu'on retrouve aussi dans l'imaginaire du Grand Soir, que la société capitaliste est à bout, elle est en crise, le mouvement ouvrier à un moment va entrer en éruption. C'est presque même au-delà de la question de la conscience de classe, c'est moins une espèce de vision de le mouvement ouvrier petit à petit doit accroître sa puissance, forcer des réformes politiques, mais il y a plus une vision que, entre guillemets, c'est la crise finale, levons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il y a cette vision-là qu'on retrouve dans l'imaginaire du Grand Soir, enfin voilà, qui en fonction des époques fait plus ou moins écho. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'imaginaire du Grand Soir paraît complètement décalé, mais on sait que par exemple dans les années 68, en France, il a fait un certain retour. On sait aussi que ce que tu me disais faisait aussi penser quand même à ce que disait un peu Bakounine, de l'idée qu'une société nouvelle allait naître par une espèce de destruction radicale de la société existante. Alors que, par exemple, quelqu'un comme Proudhon ou la social-démocratie, même si c'est des courants qui sont différents, avait une vision peut-être un petit peu plus dans la construction et tout ça. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Du coup, le Grand Soir apparaît comme une espèce d'imaginaire, une conception catastrophiste à la fois du capitalisme, une vision destructrice de la révolution. Et en même temps, c'est là où je voulais aussi en venir, tu parles un petit peu dans ton livre de à la fois des convergences et des divergences avec plus généralement un imaginaire un peu millénariste, quoi.
Oui, l'aspect catastrophique et enfin catastrophiste et parfois même très romantique en fait de la révolution qu'il y a dans l'imaginaire du Grand Soir, il s'incarne souvent par des métaphores à la limite de biblique, quoi. Enfin, là l'aspect messianiste ou une sorte de millénarisme anarchiste en fait, où il ne s'agit plus de la justice divine, mais de la justice populaire. Enfin, on reprend un peu les mêmes images, enfin des images religieuses très très eschatologiques, encore une fois, avec toujours cette fin de siècle. Mais voilà, c'est l'ouragan qui est métaphorisé par, enfin le peuple qui est métaphorisé pardon, par l'ouragan, la tempête, etc., qui vont encore une fois détruire, alors que avant l'apparition de l'expression, on avait tendance plutôt à assimiler la révolution à un grand jour. J'explique un peu, enfin, il y a une partie qui s'appelle du grand jour au grand soir. Et on peut voir dans ce passage du grand jour au grand soir, et ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois une radicalisation et une laïcisation des images et des symboles. Parce que quand je cite des extraits, que ce soit la presse anarchiste, on va dire, simple, que ce soit un texte, on va dire, de propagande, ou un texte beaucoup plus littéraire, très lyrique, où il est question de l'heure est proche, voilà, des formules comme ça très, très sentencieuses, beaucoup de personnes me font remarquer que c'est très religieux et que c'est très étonnant en fait pour les anarchistes. Et on peut l'expliquer de plusieurs façons. D'une part, parce que malgré tout, la France, même si après 1905, par exemple, la loi de séparation des Églises et de l'État, etc., il y a un vrai mouvement de déchristianisation, mais là, l'imaginaire catholique et religieux est assez présent. Donc, c'est pas anodin, je pense, de reprendre des images, parce que ça parle aux gens. Et l'un des buts, je pense, d'employer cette image de grand soir, c'est justement pour vraiment motiver, pour que l'imaginaire soit moteur en fait du changement social. Cette image de grand soir de la nuit, elle sert la vision insurrectionnelle du changement social.
Oui, et c'est intéressant justement que tu évoques tout cet aspect, presque, on pourrait presque dire que c'est une sorte de millénarisme sécularisé, d'une certaine manière. Et je pense que, par exemple, les travaux de Michael Lowy ont pas mal montré qu'on avait fait une opposition drastique entre, d'une part, les mouvements ouvriers progressistes et, d'autre part, les mouvements romantiques, alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'ai l'impression, dans tout ce que tu décris de cet imaginaire du grand soir, que cet imaginaire du grand soir et plus généralement l'imaginaire de la révolution, lié notamment au syndicalisme révolutionnaire fin 19e et début 20e, il est d'une certaine manière à mi-chemin entre une forme de progressisme bourgeois, qui a été notamment celui de Marx ou d'une autre manière de Proudhon, si j'étais un petit peu méchant, avec l'idée, alors là pour le coup, qui se rapporterait plus à quelque chose de plus progressif, où la raison, disons, moteur de l'histoire, qui petit à petit délivre l'être humain de la nature, etc., etc. Et d'un autre côté, une vision où l'histoire n'est pas pensée comme, du coup, cette espèce de progrès perpétuel, mais plutôt comme une espèce de décadence par rapport à un âge d'or lointain. Et c'est un imaginaire, par exemple, qu'on retrouve aussi, principalement lié quand même, il faut le dire, à l'extrême droite, un imaginaire romantique. Et ce qui fait, par exemple, que le fait qu'il y ait dans le syndicalisme révolutionnaire un aspect un petit peu, millénariste, romantique, a pu faire que certains historiens en ont tiré des conclusions un peu hâtives, comme par exemple Gilles Sternel, qui en a tiré la conclusion, peut-être moins sur ce plan idéologique-là, mais disons plus généralement, que finalement, il y avait des accointances finalement entre le syndicalisme révolutionnaire et le fascisme, alors qu'en fait, on se rend compte que peut-être que justement cet imaginaire du grand soir et le mouvement social qui lui est accolé, c'est presque, c'est original, ça, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu perturbant aujourd'hui, puisque c'est pas le mouvement ultra rationalisé, le mouvement ouvrier, disons, guidé par le Parti communiste français avec une vision très scientiste finalement de l'histoire, très rationaliste, ni, disons, quelque chose d'extrêmement romantique, décadent, etc. Mais c'est quelque chose de très original, cet imaginaire du grand soir.
Effectivement, comme l'a bien montré Michael Louis, la particularité là, c'est qu'on est dans un romantisme et, voilà, qui est révolutionnaire, puisque le romantisme, qu'il soit littéraire, politique, au XIXe siècle, effectivement, est beaucoup plus accolé à des milieux conservateurs et avec souvent cette idée d'un retour à l'âge d'or, alors que le pseudo-âge d'or tel qu'il est évoqué souvent par les anarchistes, ça peut être une sorte de passé pré-capitaliste, mais il n'est pas forcément... il est rarement question d'un retour, en fait, aux origines, quelque chose de primitif. Par contre, il y a effectivement ce lien... l'homme qui désigne les êtres humains, l'homme et la femme, ce lien avec la nature et l'aspect de régénération, effectivement, qui est très important. Mais encore une fois, l'idée en tout cas de continuité avec l'histoire, je pense qu'elle est pas là, parce qu'il y a une vraie idée de rupture et voire d'irruption, en fait. Et avec cette idée que quand je dis mouvement ouvrier, c'est vrai que ça dépasse, en fait. Enfin, c'est, je sais pas, les prolétaires. Enfin, c'est aussi bien sûr les paysans. Enfin, c'est un corps social assez assez large. À la fois qu'ils auront enfin leur place au banquet social, et puis même, enfin, de toute façon, il s'agira pas forcément de partager avec les bourgeois, parce que ils seront mis au pas ou pas. Mais cette idée, voilà, d'avoir sa place. Ce qui est différent avec les mouvements millénaristes antérieurs, notamment peut-être ceux du Moyen-Âge, c'est encore une fois la question religieuse ou pas. C'est que dans l'imaginaire du Grand Soir, il n'est jamais question, même s'il y a beaucoup de changements atmosphériques, encore une fois beaucoup de métaphores, que à la limite les changements dans le ciel peuvent symboliser les changements, quelques étapes de la révolution, à savoir le feu qui va permettre de tout brûler, toujours cette idée donc assez chère à Bakounine de détruire pour mieux reconstruire, etc. Il n'y a pas de puissance surnaturelle, et si c'est pas forcément dit de cette façon dans les textes, encore une fois plus littéraires ou poétiques, dans les textes de propagande, il y a toujours un appel, en fait, à l'organisation, à l'action, à l'autonomie, qu'elle soit individuelle, donc pour l'émancipation des esprits, et bien sûr une autonomie collective qui après s'incarne encore plus avec le syndicalisme révolutionnaire.
Oui, c'est évidemment cet imaginaire du grand soir, c'est pas un imaginaire, réactionnaire. C'est presque, on pourrait dire que c'est, enfin, peut-être pour contextualiser, j'ai un peu l'impression que cet imaginaire du grand soir, s'il a particulièrement de la force dans les années 1890-1900, c'est parce qu'on est dans une conjoncture où, d'une part, évidemment, le mouvement révolutionnaire, les ouvriers savent très bien ce que c'est que la réaction, ce que c'est que la droite. Il y a eu l'écrasement de la Commune de Paris par une assemblée majoritairement monarchiste. La critique du féodalisme est encore présente. L'imaginaire de la Révolution française, et qui est une révolution dont le principal achèvement a quand même été anti-féodal, il est encore présent. Donc disons que c'est ça qui fait qu'évidemment l'imaginaire du Grand Soir peut pas être un imaginaire de retourner en arrière, puisque finalement les prolétaires de cette époque savent très bien ce que c'est que l'ancien régime, ce que c'est que la domination aristocratique, ce que c'est que la monarchie, et ils n'en veulent pas. Et d'un autre côté, ils vont aller plus loin que le mouvement ouvrier, la majorité du mouvement ouvrier français jusqu'aux années peut-être 1860, peut-être il y avait peut-être encore quelques illusions dans les années 1880, mais en tout cas dans les années 1890, ça tombe, cet imaginaire de la République sociale. parce que cet imaginaire de la République sociale, bon, déjà, il a été pas mal déçu en 1848, en 1870 avec la répression de la Commune de Paris, et puis dans les années 1880 avec l'affermissement de la République, disons, les prolétaires voient bien que globalement, il n'y a même pas vraiment de réforme sociale à cette époque. Il faudra attendre un certain temps. J'ai l'impression que cet imaginaire du Grand Soir, il va bien avec une conscience que, à la fois, l'Ancien Régime, c'est pas émancipateur, c'est, voilà, il faut pas y retourner. Donc, ça, c'était qui est finalement un grand classique hein, du mouvement ouvrier depuis la période révolutionnaire, et en même temps que la modernité bourgeoise, libérale, républicaine, bah, en fait, finalement, elle est extrêmement décevante, et que du coup, il faut finalement en finir avec tout. Enfin, c'est presque... Ça fait un peu écho à aux paroles de l'International, du passé faisons table rase. Finalement, il faut faire table rase à la fois du passé féodal et du passé bourgeois.
Bah, c'est vrai qu'à la fin du 19e, avec l'institution vraiment de la Troisième République, on est dans un moment un peu charnière, puisque du point de vue de l'État, il y a une volonté, on est 100 ans après la Révolution française, donc il y a une volonté aussi d'intégrer en fait la Révolution dans le roman national, enfin dans le récit national, de lui donner toute sa place, enfin une place en tout cas dans l'histoire de France. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est Gaetano Manfredonia qui l'explique très bien, c'est que les anarchistes sont confrontés un petit peu à un dilemme. C'est que, d'une part, il y a beaucoup de textes dans les journaux que j'ai pu lire où ils disent qu'il n'y a rien de changé, que ce soit enfin, Le Père Pénard ou une chanson aussi de Paul Payet qui dit nos frères avaient le servage, aujourd'hui c'est l'esclavage, enfin, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais pour montrer une similarité en fait entre la révolution de 1789 en fait a permis certes de mettre fin à l'Ancien Régime, mais nous prolétaires des usines et des champs on reste toujours sous la coupe d'un bourgeois, d'un maître, etc. Et donc il y a à la fois l'idée de dire bon, la révolution de 1789 finalement est à continuer. Ça a été une révolution politique, mais la justice sociale, l'égalité et la fraternité ne sont toujours pas au rendez-vous. Et en même temps, il faut se démarquer des autres forces de gauche naissantes et donc un peu après par exemple le Parti Socialiste ou même avant avec Jules Guesde, et s'inscrire aussi dans une tradition révolutionnaire. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce hiatus à trouver sa place et à construire une culture politique anarchiste propre qui va être à la fois de se réclamer peut-être plus de Marat que des révolutionnaires de 1789, hein, que la frange, on va dire, plus bourgeoise de la Révolution, et en même temps de dire la Révolution sociale n'a pas été faite, celle-ci reste à faire. La situation d'aujourd'hui le montre bien, quoi.
Oui, c'est là, effectivement, où ils sont en décalage par rapport à la lecture un peu d'histoire du Parti Socialiste de Jaurès, puisque finalement, si on reprend l'histoire de la Révolution française de Jean Jaurès, c'est une vision très progressiste, où finalement, on est dans une vision de l'histoire, où finalement, toujours, ça s'améliore, et du coup, là, ce qu'il faut, c'est... rentrer dans les institutions de la Troisième République, instaurer des réformes sociales, etc., chérir l'héritage de la Grande Révolution. Les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires ne peuvent pas rejeter, évidemment, la Révolution française 1848, parce que ce serait, évidemment, se couper d'un imaginaire qui traverse le mouvement ouvrier et les paysans tout au long du 19e siècle. Et en même temps, ils doivent se démarquer. Et une des manières de se démarquer, effectivement, c'est en prenant une rupture radicale avec la République et avec la société bourgeoise, etc. Ce qui fait que, effectivement, et ça, on en a parlé dans l'émission avec Guillaume Davranche, ce qui fait que certains, à partir, disons, des penseurs relativement proches de cet imaginaire du Grand Soir et du syndicalisme révolutionnaire, iront déséquilibreront, disons, cette espèce d'entre-deux entre une critique de la réaction et une critique de la modernité bourgeoise, et iront plutôt du côté de la réaction, comme d'ailleurs à l'inverse, d'autres iront plutôt du côté de la modernité bourgeoise. Donc on voit que finalement, ce mythe du grand soir, il était à la fois, il a eu une force, et on va le voir dans la deuxième partie de l'émission, et en même temps, c'était un produit tellement original que par rapport aux deux grandes philosophies de l'histoire de son temps, que c'était ça explique aussi pourquoi est-ce que ce mythe du grand soir, il a, en dehors des périodes révolutionnaires où il est un peu revenu dans les années 68 et tout ça, comment est-ce qu'il a pu finalement, dans des périodes de moindre agitation sociale, s'effondrer au profit soit de la réaction, soit de l'apologie de la modernité bourgeoise.
C'est pour ça aussi que on voit, si on devait faire par exemple un tableau un peu statistique des occurrences du grand soir dans les textes, qu'il y a d'une part, ça apparaît, l'expression est beaucoup employée vraiment au tournant de 1899-1900. On a l'impression qu'on pose les bases d'un imaginaire et qu'il fonctionne un peu en tandem en fait avec l'idée très en vogue de grève générale qui apparaît bien avant, mais qui est vraiment qui suscite la ferveur et qui rencontre l'adhésion d'une partie du mouvement ouvrier de la fin des années 1890 jusqu'à à peu près les 1910-1911, même si après on associera l'idée avec de grève générale avec l'idée de faire échec à la guerre. Et Einsteiner, je pense, le dit aussi de cette période 1905-1911. On peut prendre 1905, même s'il y a bien sûr des conflits et des mouvements sociaux avant, mais parce qu'on est 10 ans après la création de la CGT. Donc on est dans un mouvement social constitué et revendicatif où pendant 5, 6, 10 ans, il y a énormément de conflits et on a l'impression que chaque manifestation ou chaque grève ou chaque affrontement pourrait être l'étincelle, enfin pourrait être les prémices de la révolution sociale tant espérée et sur laquelle on discourt depuis déjà un moment.
Oui, c'est-à-dire que ça c'est important de le dire, c'est que cet imaginaire du grand soir, il n'aurait pas eu un tel écho s'il n'y avait pas déjà une certaine conflictualité sociale. C'est une conflictualité sociale qui va évidemment renforcer, mais il n'aurait pas eu un écho tel s'il n'y avait pas eu déjà une forte conflictualité sociale. Et c'est pour ça que, évidemment, quand on est dans des périodes où la conflictualité sociale est moindre, ou alors, il faut bien le dire, où les structures du mouvement ouvrier sont différentes. Par exemple, on peut penser au fait qu'à partir des années 1920 jusqu'aux années 1980-1990, le mouvement ouvrier français va être un petit peu capturé par le Parti communiste français, où là, l'imaginaire du grand soir, pour le coup, va complètement disparaître, puisque finalement, cet imaginaire du grand soir, il est qualifié systématiquement d'aventurisme, petit bourgeois, etc. Bon, enfin, on ne va pas revenir trop là-dessus, mais finalement, cet imaginaire du grand soir, il va de pair avec une forte conflictualité sociale. Le fait que le mouvement ouvrier n'est pas cadenassé par le Parti communiste français ou par le Parti socialiste. Et enfin, et peut-être là-dessus, ce serait intéressant de développer, avec l'idée la grève générale est ce qui va permettre d'en finir avec le capitalisme. Et ça, c'est en décalage, parce que finalement, on pourrait se croire que finalement l'imaginaire du grand soir, c'est un imaginaire qu'on pourrait associer par exemple à la Commune, ou à l'insurrectionnalisme anarchiste des Bakounine, etc. Alors que en réalité, le grand soir va plutôt se coupler avec la stratégie révolutionnaire entre guillemets de la grève générale.
Pour le XXe siècle, très brièvement, c'est vrai que, enfin, moi, je connais pas très bien, mais c'est vrai que l'incarnation, si on peut dire, du grand soir, elle va du coup être plus à l'étranger. Si on prend la révolution russe, même si après on connaît la suite, ou par exemple 36 en Espagne, de relier en fait l'idée force de grève générale et l'imaginaire du grand soir, ça permet un petit peu aussi de pointer les atouts et les limites de cette image du grand soir. puisque il y a vraiment l'idée, comme on l'a dit, d'une rupture, d'une fulgurance, enfin de nous projeter au soir de la Révolution quand on la décrit pour se la représenter, puisqu'il y a cette idée que la transformation sociale sera possible si on se l'imagine. Donc c'est encore une fois vraiment l'imaginaire comme vecteur, mais les limites aussi, ça pourrait être de s'en tenir à ça, en fait, de n'y voir qu'une sorte de un peu de formule magique incantatoire. Et c'est pour ça qu'il y a les auteurs que j'ai pu lire et rapporter dans le livre. Certains le disent, quoi. Le grand soir, il faut le vivre. Le grand soir, il ne faut pas l'attendre, il faut le faire. Donc, avec cette incitation permanente à l'action. Et qui va trouver, en fait, à s'incarner très concrètement avec l'idée de grève générale, où du coup on a une sorte de mix un peu de la grève générale qui permettra de déboucher sur le grand soir, même si on retrouve après aussi une vision, quand c'est une vision, on va dire, strictement syndicaliste, on s'écarte un peu aussi du grand soir où on va avoir une description peut-être beaucoup plus précise de la société d'après la grève générale, où il y aura directement une réorganisation de la production, où la société du lendemain de la Révolution sera beaucoup plus pensée précisément que dans l'imaginaire du grand soir.
Oui, c'est-à-dire qu'on est moins dans une espèce d'imaginaire millénariste assez vague, et finalement une espèce de mythe mobilisateur de voilà. Tout va changer, mais finalement on ne sait pas trop ce qui va se passer, et on passe sur un projet syndical d'une société réorganisée à partir, par exemple, du syndicat. C'est tout l'imaginaire du syndicalisme révolutionnaire. Et là, pour ce qui est de l'Espagne, puisqu'on l'a évoqué, on peut renvoyer à l'émission qu'on a fait avec les gyménologues sur ce sujet. Mais cet imaginaire de la grève générale, il a deux facettes. Un qui est très lié au grand soir, où finalement on va... ça va être la grève générale qui va abolir le capitalisme, et un imaginaire qu'on trouve encore aujourd'hui, qui est effectivement assez séduisant, puisque au moins il écarte, disons, la fameuse question de la transition, et qui effectivement dans l'histoire a assez mal terminé tout ça. Et en même temps, aujourd'hui, c'est critiqué comme étant démobilisateur, parce que finalement, on attend toujours que le prolétariat mondial se soulève, etc. Enfin, bon, en fait, finalement, cet imaginaire du grand soir, il est toujours l'objet de débats critiques jusqu'à aujourd'hui. À la fois objet de débats critiques lorsque c'est la grève générale qui mène au grand soir, ou même aujourd'hui, l'idée que... la grève générale ne mène pas au grand soir, mais mène, disons, à des grandes réformes et tout ça, parce qu'il y a cette double facette dans la grève générale. Il y a à la fois l'imaginaire du grand soir et en même temps un imaginaire dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, où il y a un objectif plus pragmatique, disons, de la journée de 8 heures, quoi.
Le mythe mobilisateur, justement, c'est l'expression qu'emploie Sorel pour qualifier la grève générale. Et si il emploie le terme de mythe qui lui sera reproché, mais dont il s'expliquera, notamment par le fait qu'ils disent oui, certains décrivent, et notamment Jaurès, ils ciblent pas mal les parlementaires socialistes en disant Jaurès parlait de la grève générale au début comme d'une utopie anarchiste, donc totalement irréalisable. Et il dit, même si j'ai eu tort d'employer ce terme de mythe, finalement, si cette idée était si illusoire que ça, toutes ces personnes politiques ne s'échineraient pas tant à la combattre. Donc c'est qu'elle a une force. Donc mythe mobilisateur, et il dit les hommes qui luttent ont besoin d'images victorieuses, en fait, de se représenter leur action sous la forme d'images victorieuses. Et c'est vrai que c'est là qu'on retrouve vraiment l'analogie entre le grand soir et la grève générale, sachant que la grève a vraiment, encore une fois, ce côté très pratique, et que si l'idée de grève générale, elle est ancienne, elle date. Elle est notamment déjà évoquée pendant la première internationale avec l'idée de... on parle de grève universelle contre la guerre, etc. La grève générale donc, est débattue dans les années 1890 dans des congrès politiques, dans des congrès ouvriers. Mais si elle fonctionne, on va dire, aussi bien dans les esprits, c'est qu'elle... Enfin, voilà, la grève naît de l'action, quoi. C'est pas l'inverse. Enfin, là, on n'est pas vraiment de la théorie à la pratique, mais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que de ces pratiques, on les a théorisées. Et Fernand Peloutier, qui est un grand défenseur de l'idée de grève générale au début des années 1990, et qui, après aussi, lui, insistera énormément sur... donc, qui est l'un des instigateurs du mouvement des bourses du travail et qui insistera vraiment sur la nécessité pour les anarchistes d'être au cœur des luttes et au cœur du mouvement ouvrier. Voilà, lui, il définit la grève générale en 5 points et il dit notamment que voilà, la grève générale permet de faire l'économie de l'insurrection parce que tout ce qui est les barricades, ça ne marche plus. Puis en plus, les barricades, c'est un moyen de défense alors que voilà, il faut être... il faut être offensif, etc. Enfin, il parle plus en fait de grève, de grève généralisée que de grève générale, puisqu'il s'agit de couper les points stratégiques, etc. Et à la fin, il le dit, il dit dans son texte où quand il définit la grève générale, il dit la grève générale, je le dis carrément, est une révolution. Donc, il assimile vraiment les deux. Et voilà, je pense que ce côté vécu quoi, expérience très 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 empirique en fait pour dans le mouvement ouvrier explique aussi la force de l'idée à ce moment-là.
Ouais, c'est-à-dire que la grève générale associée donc à l'imaginaire du Grand Soir, elle est à la fois disons des pratiques de grève qui déjà parce qu'elles suspendent un temps l'ordre des choses, l'exploitation capitaliste, parce qu'elles redonnent prise, parce que, disons, elles montrent la puissance du prolétariat par rapport au capital, qui du coup...
du producteur.
C'est ça, où effectivement, on voit que effectivement, le capital est dépendant en fait, du prolétariat. Et évidemment, ça nourrit cet imaginaire de la grève générale. Et d'un autre côté, à son tour, l'imaginaire de la grève générale qui procède de la pratique va encourager des pratiques de grève plus massives, telles que celles qu'on va voir notamment le 1er mai 1906, même si ce n'est pas aussi réussi que ça le voulait. Mais finalement, le Grand Soir et l'imaginaire des grèves générales ont eu autant de force, c'est parce qu'elles procédaient de la pratique et que d'un autre côté, elles permettaient aussi, enfin qu'elles avaient aussi un débouché pratique et que ce n'était pas uniquement, comme d'ailleurs on lui a beaucoup reproché, uniquement une espèce d'utopie fantaisiste, puisque en l'occurrence... lorsque le Grand Soir s'incarnait, par exemple, dans une stratégie révolutionnaire comme la grève générale, et on pourrait presque dire la grève générale insurrectionnelle, puisqu'il n'y a pas seulement l'aspect de l'arrêt de travail, comme tu l'as dit, il y a vraiment quelque chose de très pratique et de l'ordre de la stratégie révolutionnaire, une stratégie révolutionnaire qui, à vrai dire, est plus séduisante que celle uniquement, disons, d'attendre des réformes sociales qui n'arriveraient jamais, ou l'imaginaire qui, à l'époque, du coup, n'est pas très présent, mais qui ensuite va cadenasser le mouvement ouvrier du marxisme-léninisme, de la prise du pouvoir politique par une minorité dictatoriale.
Bah, c'est d'ailleurs là-dessus que... Et on retrouve, je pense, cette opposition peut-être un peu aujourd'hui, mais c'est l'une des questions sur lesquelles le mouvement anarchiste va quand même plus ou moins se diviser au moment où... où les anarchistes entrent dans les syndicats, puisque d'un côté, 1893, enfin, des débuts des années 1890, après ce qu'on a appelé la période des attentats, où le mouvement anarchiste est vraiment décimé, en fait, par la répression. Le fait de rejoindre le mouvement ouvrier par les syndicats, et enfin d'inciter à la fois les anarchistes à y entrer et pour diffuser une parole, ça va permettre dans un sens au mouvement anarchiste de un peu de renaître de ses cendres, enfin en tout cas de trouver un second souffle. Et c'est aussi à ce moment-là que d'autres courants, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment à ce moment-là, mais que s'affirme aussi ce qu'on a appelé les anarchistes individualistes, ou avec cette idée soit qu'il faut vivre maintenant, qu'il faut vivre en anarchiste maintenant, sans forcément attendre le grand soir, avec l'idée que dans un sens le syndicalisme serait un peu le fossoyeur en fait de l'idée anarchiste, puisque et même si ça se vérifie pas au début, ça se vérifie ensuite, où il y a effectivement un aspect réformiste, même dans le syndicalisme révolutionnaire, comme on va pouvoir le voir avec le 1er mai 1906.
Voilà, et donc on va passer une pause musicale avant de passer justement à la dimension très pratique du grand soir, c'est-à-dire la préparation et la grève du 1er mai 1906.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je le conscris, il vaut mieux déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Les élus foulés à la potence, lorsque l'on souffre, on doit pouvoir châtier. Leurs électeurs, foyeux-les d'importance, envers aucun, il ne faut de pitié. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots hâtons la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout,